Merci d'être venu. Pendant mon terrain, je voulais garder ces trois lieux d'observation qui étaient Narbonne, bon, qui était un petit peu en périphérie hein, quand même de mon travail, Ankara, où bon, je vivais, et puis ce village qui m'intriguait et auquel j'y allais très très régulièrement. Je voulais garder ces trois lieux d'observation et donc j'ai fait des allers-retours en fait entre les trois. Bon, un peu moins Narbonne hein, quand même. C'était en fait Narbonne va me servir en fait de contrepoint dans ma thèse. Et donc quand j'ai commencé à écrire en partant de cette question du village urbain, en fait tous les travaux posent la question sur ces migrants, parce que quand même, il faut voir qu'il y a l'exode rural en Turquie, ça veut dire quelque chose. Hein. En 20 ans, 30 ans, c'est la proportion en fait de population rurale, population urbaine, c'est complètement inversé. Hein. C'est quand même, c'est vraiment des flux migratoires énormes. Istanbul a complètement explosé, etc. Et ça pose évidemment des grandes questions aux politiques, etc., avec des grands thèmes qui traversent les journaux, à savoir il faudrait arrêter ces flux migratoires, etc. Et une des questions qui traverse la sociologie urbaine et l'ethnologie, un peu moins parce que l'ethnologie est un peu moins présente en Turquie, mais c'était de savoir ces ruraux, qui sont-ils quand ils arrivent dans ces quartiers, en fait, qui construisent eux-mêmes, ces quartiers de Gecekondu. Ces quartiers autoconstruits, qui sont-ils? Sont-ils des urbains? Sont-ils des ruraux? Et donc c'était la question de l'identité en fait qui était centrale. Et moi je me suis pas posé la question de savoir si c'était des urbains ou des ruraux. Je me suis posé la question, mais d'abord comment ils sont arrivés là? Et pour ça j'ai suivi peut-être le conseil de Sayad, qu'il fallait d'abord s'interroger sur l'émigration. Et surtout avoir une démarche intellectuelle qui consiste à dénaturaliser l'émigration, à savoir partir, ce n'est pas naturel, ce n'est pas, et je crois que très souvent on naturalise cette expérience qui consiste à prendre sa valise et à partir ailleurs, et je pense qu'il faut justement essayer de réfléchir sur ça, sur l'émigration. Il y a beaucoup plus de travaux sur l'immigration que sur l'émigration, hein. C'est très clair. Et donc ça, c'était la première grande question que je me suis posée. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est bon, alors une fois qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et surtout, comment ils le deviennent? Donc ça, c'est la deuxième partie de mon bouquin qui est sur l'immigration et sur la transformation des habitus. Pour l'immigration, j'ai adopté une méthodologie qui est assez particulière, qui est la variation des échelles d'analyse et d'observation. Je me suis en fait parti de la région sur laquelle je travaillais, qui est Yozgat, qui est une région en Anatolie centrale, qui est juste à côté de la région d'Ankara, de la capitale, qui est, on va dire, assez. Déjà, qui n'a pas très bonne réputation. On va voir pourquoi. Ensuite, c'est une pas bonne réputation, c'est-à-dire grosso modo, on dit que c'est des arriérés, hein, voilà. Et deuxièmement, une région, oui, qui c'est vrai, a connu beaucoup de départs. Et puis, j'ai resserré à chaque fois la focale, hein, pour essayer de comprendre quels étaient les déterminants migratoires et migratoires. Donc, c'est un jeu de variation d'échelle que j'ai fait. Alors, Yozgat, je commencerai par là. Yozgat, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on peut la caractériser comme une région, alors, comme une marge intérieure. C'est une région qui est marginale, mais à l'intérieur du pays. Ou du moins, alors, là-dessus, il faut nuancer, évidemment. Alors, au départ, Yozgat a un autre nom, c'est le Bozok. C'est une région essentiellement parcourue par des Turkmènes, des nomades sous l'Empire ottoman, qui va se voir en fait se développer, prendre son essor au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, sous une famille, les Çapanoğlu, qui va développer cette région, entre autres en créant une ville, Yozgat, à 1300 mètres d'altitude, c'est peut-être pas une bonne solution pour une ville, mais enfin bon, voilà quoi. Ils la mettent à 1300 mètres d'altitude et les voyageurs nous disent au 19e siècle que c'est une ville resplendissante, une des plus modernes en fait de Turquie. Alors c'est très étonnant quand on voit ensuite au 20e siècle l'image qu'elle a quoi. Et donc voilà. Cette ville en fait, cette région va se trouver marginalisée pendant la guerre d'indépendance, où toujours cette famille de Çapanoğlu, qui va connaître des déboires, etc., va se révolter contre Mustafa Kemal. Et visiblement, elle va en payer le prix parce que elle va rester en dehors d'un certain nombre d'investissements de l'État. Et donc, on voit, bon, alors elle n'est pas, c'est une région qui n'est pas très favorisée par le climat. Hein. Il fait froid, le relief est très accidenté, l'hydrographie est pas très bonne. C'est-à-dire que il y a un grand fleuve, mais qui en fait le Kızılırmak passe un petit peu en dessous, donc elle traverse pas la région. Donc c'est l'hydrographie n'est pas excellente. Mais c'est pas tellement ces conditions, je dirais, géographiques de base qui font que le pays va se trouver arriéré, entre guillemets. C'est le fait que politiquement, elle va être marginalisée. On reviendra sur cette révolte de Çapanoğlu en 1920, donc hein, à peu près. Ça, c'était le premier point, c'est que quand même, il y avait une marginalisation politique. Le deuxième point, c'est ensuite, c'est si on recentre encore la focale sur la sous-région sur laquelle j'ai travaillé, qui est la région de Sorgun, donc une petite ville qui est la sous-préfecture en fait, hein, et sur la centaine de villages qui constituent cette région, je me suis demandé, bon, mais alors quel type de village part prioritairement? Quel village part? Est-ce que ce sont les Alevis qui partent? Ou est-ce que sont les sunnites? Alors, je vais faire tout de suite un point sur les Alévis. Les Alévis, c'est très compliqué en fait à définir là en deux mots. On peut les caractériser comme, je dirais, des hétérodoxes, au sens où en Turquie, il y a une orthodoxie définie par l'État. Donc, c'est des gens qui ne reconnaissent pas cette orthodoxie, enfin, ou partiellement, on va dire. Qui se caractérisent souvent par un culte lié à Ali, donc le gendre du prophète, gendre et cousin du prophète, et qui ont des rites particuliers, notamment, et un clergé particulier, donc des autorités religieuses particulières, les Dédés, qui venaient une fois par an faire cette cérémonie particulière qui est le djem, où tout le village se réunissait. Dans une cérémonie qui durait toute la nuit et où on réglait entre autres les problèmes du village. Donc il y avait un tribunal populaire à ce moment-là et où tous les conflits du village devaient se régler pour que la cérémonie se tienne. Alors évidemment, ces réunions où se retrouvaient mélangés hommes et femmes a donné lieu à des tas de fantasmes de la part des sunnites et j'ai encore entendu moi récemment hein, des choses comme quoi les Alévis se livrent en fait à des orgies sexuelles lors de ces djems, etc. Ce qui est complètement évidemment totalement faux mais il y a cet imaginaire de l'Alévi orgiaque chez les sunnites. Alors, heureusement, c'est en train de justement de disparaître, mais c'est quand même ça. Donc, une population qui est quand même pas très, pas toujours bien vue. Alors, la question que je me suis posée, c'est qui part en premier? Est-ce que ce sont les Alévis? Est-ce que ce sont les sunnites? Est-ce que ce sont les villages qui sont plus alphabétisés? Qui part en premier? En fait, cette question, c'est le chapitre 2, c'est un chapitre très technique, très ardu à lire. Vous pouvez le sauter, c'est pas grave. C'est un chapitre qui m'a mis, j'ai mis 6 mois à l'écrire et 6 mois à constituer. Et ça aussi, c'est une aventure, c'est aussi une aventure intellectuelle importante. C'est en fait ce qui m'a permis d'écrire ce chapitre, c'est le dernier jour de mon terrain. Je suis allé à l'université d'Ankara en géographie et par hasard, je suis tombé sur une carte. Datant de 66, où il était indiqué la qualité de la terre pour toute la région de Sorgoun. Donc, ça me permettait de savoir si tel village avait de bonnes terres ou de mauvaises terres. Et à partir de là, je me suis dit, mais à partir de ça, je peux faire une base de données. Donc, j'ai pris mes villages et j'ai commencé à dire, bon, est-ce que c'est une bonne, est-ce qu'ils ont de bonnes terres, de mauvaises terres, de bonnes terres, mauvaises terres? Et puis ensuite, je me suis dit, ah, mais si je peux faire ça, je peux croiser, je peux voir si les bonnes terres, elles vont aux Alévis, aux Sunnites, etc. Donc, j'ai croisé avec les Alévis, les Sunnites. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, mais alors, ça suffit pas. Et j'ai fait, en fait, ça m'a pris, quand je dis 6 mois, et je savais pas non plus quel outil statistique j'allais utiliser. Je marchais vraiment à l'aveugle. Hein. J'ai croisé plusieurs choses, comme alphabétisé, non alphabétisé, etc. J'ai pris toutes mes données que j'avais ramassées dans les bibliothèques, dans les archives, etc. Et je les ai mixées et j'en ai fait une grosse base de données. Et j'ai fait un traitement statistique qui, au départ, était vraiment du bricolage. Je me suis fait aider par des mathématiciens et il en est sorti ça. Il en est sorti quelques résultats intéressants qu'on pourrait développer. C'est que bon, ceux qui partent en premier, les premiers villages en fait qui partent massivement, ce sont déjà les villages qui sont le plus alphabétisés. Et le deuxième point, c'est aussi ce c'est alors le et c'est un et ou hein, ça peut être les deux. Évidemment, c'est pas exclusif. C'est aussi ceux qui ont des mauvaises terres. Bon, ça, on s'en doutait un peu. Mais être alphabétisé et avoir de mauvaises terres, eh ben, ça a favorisé le départ. Or, le village sur lequel je travaillais, curieusement, c'était un village qui était tout petit. C'est un des plus petits de la région. Mais c'était un de ceux qui avaient les moins bonnes terres et qui était un des plus alphabétisés. Et alors ça, c'était curieux. Pourquoi ce village qui était le plus petit était un des villages les plus alphabétisés? Eh bien, c'est là, en reprenant mes entretiens, etc., je me suis aperçu qu'en fait, très tôt, mais j'anticipe, mais très tôt, en fait, il y a eu un instituteur dans ce village. Et alors ça, c'était quand même curieux, qu'il y ait un instituteur dans ce village. Comment expliquer que dès les années 30, dès les années 40, il y a un instituteur? C'était que, en fait, ce village a développé assez rapidement, à la naissance de la République, des liens particuliers avec la République, à travers des gens qui sont fait leur service militaire, mais des gens aussi qui sont devenus militaires, et puis un individu qui est parti dans un cueil, dans, je, là, je, j'allais le dire en turc, dans un institut de village, c'est-à-dire que la République, au début, a mis en place des instituts de village pour former des instituteurs pour ensuite développer des écoles un peu dans tous les villages. Et là-dedans, il y en avait un de ce village. Et ça fait que le village s'est retrouvé alphabétisé assez rapidement. Mais c'est très net, hein, quand on voit les statistiques, il y a quand même beaucoup plus de gens alphabétisés dans ce village. Chez les femmes et chez les hommes. Enfin, chez les hommes et chez les femmes. Donc, des choses assez particulières. C'est pas tellement parce qu'il était à Lévis, c'est parce qu'il était alphabétisé et qu'il avait peut-être des mauvaises terres. Ça joue. Ça fait des propensions à partir. L'autre question qu'on pouvait se poser, c'était, mais ce village, il a une histoire particulière. C'est un village d'anciens Turkmènes qui faisaient du grand commerce et qui se sont sédentarisés en 1912, au moment en fait où au moment de la guerre des Balkans, il y a eu réquisition des montures et entre autres des chameaux, et donc ils se sont retrouvés sans monture pour pouvoir faire du commerce de Bassora à Samsun. Hein, c'était des caravaniers. Donc c'était des gens qui étaient habitués à voyager, etc. Ils se sont sédentarisés. Et quand même, révolution culturelle, 1912, ils sont arrivés, ils ont dû se transformer en agriculteurs. Ils savaient pas ce que c'était que l'agriculture en 1912. Et ils voyaient par exemple le village voisin passer l'arrière et ils se disaient, mais c'est bizarre ce qu'ils font, ils font des dessins sur la terre. Pour vous dire, je dirais, la nécessité de changer leur modèle économique et leur modèle de subsistance. Et ça aussi, je pense que ça va jouer plus tard dans le fait qu'ils vont faire du commerce et puis ensuite, dès qu'ils pourront migrer, ils vont migrer. Ce village, c'est un village donc d'anciens caravaniers et ce sont des alévis. Donc ces alévis, comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui sont hétérodoxes, minoritaires, parfois mal vus, souvent mal vus même. Et on peut se dire, ma foi, c'est par pression, je dirais, politique et par, je dirais, parce que il y avait une mésentente avec la majorité sunnite qui se sont dit, bon, ben voilà, quoi, on veut pas de nous, on part. En fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Quand on fait l'histoire, un petit peu des relations avec les villages sunnites, on s'aperçoit que les relations n'étaient pas si mauvaises que ça. Pourquoi? Alors d'abord parce qu'il y avait, ces gens-là faisaient du commerce, donc ils ont développé un réseau d'entraide, etc. Ils avaient des amis dans les villages alévis et dans les villages sunnites à côté, etc. Et puis par ailleurs, ils avaient une denrée qui était importante. C'est ça, hein, l'économie villageoise dans les années 50. C'est pas, ils avaient de la terre argileuse qui permet de faire des toits des maisons. Alors, c'est vraiment du détail. Ouais, bon. Mais oui, mais ça avait une conséquence. C'est que les villages sunnites étaient obligés d'aller dans leur village pour récupérer cette terre. Et eux, comme c'était plutôt des éleveurs, ils manquaient de quelque chose. Ils manquaient d'une plante qu'on appelle le madmac, qui est une espèce de renouée dont tout Anatolien raffole, et ça ressemble un peu aux épinards quand on le prépare, c'est excellent. Mais simplement, les moutons aussi adorent ça, donc ils le mangent. Donc ils n'avaient pas dans leur village, donc ils étaient obligés, ils n'avaient pas dans leur village du Mad Max, donc ils étaient obligés d'aller chercher dans les villages d'agriculteurs. Et donc, il y avait ce lien qui se faisait entre Mad Max et Tchorak, il y avait ce lien entre argile et plantes, et qui faisait que, eh bien, il y avait une certaine concorde. Il y avait une certaine concorde qui a perduré, quoi, qui faisait que il n'y avait pas tellement de conflits. Et les conflits, quand ça pétait, c'était pas tellement entre alévis et sunnites, c'est pas parce qu'on était alévis et sunnites qu'il y avait des conflits. C'était en fait parce que c'était plutôt entre la fracture entre éleveurs et agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce village d'éleveurs a eu autant de conflits avec les villages d'agriculteurs alévis qu'avec des villages d'agriculteurs sunnites. C'était pas la question d'être sunnite ou alévi. L'autre point, c'est que dans les années 60, 50, 60 et au début des années 70, pas à la fin des années 70, ces alévis se sentaient intégrés à la République. Ils se sentaient pas en danger. Et la preuve, c'est que ils ont migré, les premières migrations qu'ils ont eues, c'est vers la petite ville qui était pas très loin de ce village, Sorgoun, qui était un lieu orthodoxe, sunnite, où il y avait beaucoup de sunnites. Et ils ont migré, et ils ont parfois vendu toutes leurs terres pour pouvoir migrer dans cette ville, sans se dire, mais on va être chassé, etc. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de s'installer là. Parce qu'ils se sentaient finalement intégrés, ils avaient un rapport à l'État qui était particulier. Et ce rapport à l'État, moi je l'explique par le fait que très tôt, il y a eu cet instituteur, il y a eu ces militaires, il y a eu cette idée que il y avait ce lien avec l'État. L'État était présent dans le village. Donc, une relation qui était particulière. Évidemment, tout ça va changer dans les années 70. Dans les années 70, vous savez peut-être, il y a eu comme une guerre civile, on va dire, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ça a touché les alévis, les alévis étant considérés à l'extrême gauche. Et donc, l'extrême droite, qui était liée aussi je fais vite, je fais des équations rapides, c'est un peu. L'extrême droite étant liée aussi à une certaine idée de l'orthodoxie, etc., ils ont pris pour cible les alévis. Et il y a eu à Sorgoun des débuts de pogroms anti-alévis. Et à partir de là, les alévis sont partis. Enfin, une partie sont partis, et entre autres, les gens de ce village sont repartis dans le village pour se réfugier. Donc, ils ont fui Sorgoun. Mais là, j'anticipe un peu. Troisième niveau, donc on était au niveau de la région, on a vu là l'intégration de ce village dans la région, de savoir bon voilà leur relation avec leurs voisins, leur relation avec l'État, etc. Ça explique un certain nombre de choses, mais il faut aussi descendre au niveau du village lui-même pour voir quelles sont les tensions au niveau du village, pour se dire bon, est-ce qu'il n'y a pas des tensions qui expliquent que les gens sont partis? Et évidemment, c'est un village qui, comme tous les villages, était parcouru de grandes tensions sociales. En fait, il y avait des grandes différences entre les lignages, les sulalés, ce qu'on appelle les sulalés. Il y avait des grandes tensions entre les sulalés et il y avait une course au prestige, il y avait une grande concurrence. Et d'ailleurs, les conflits n'arrivaient pas toujours à être résolus dans ces grandes cérémonies dont je vous ai évoqué, ces grandes cérémonies annuelles des djem ou les dédés, donc les autorités religieuses à Lévis venaient une fois par an pour faire leur cérémonie. Il y avait des conflits qui restaient. Donc une concurrence interne très très forte. Et dès lors que migrer voulait dire réussir, eh bien le village s'est vidé. Ça a été assez rapide. Je pense qu'il y a la courbe dans le livre, ça descend très très vite. Donc c'est un peu tous ces éléments qui font que ce village, plus que les autres, est parti à migrer et s'est engagé dans la voie de la migration. Restons encore un peu au niveau du village. On pourrait se dire facilement, bon voilà, ok, on a compris, on a un ensemble de facteurs, hop, tous les gens partent, prennent leurs valises et vendent le bois qui fait les toitures des maisons, les maisons s'effondrent, vendent leur cheptel et se mettent sur les routes. Oui, mais c'est un peu trop facile, parce que ça s'est pas passé comme ça au niveau du village. Et ça se passe jamais comme ça au niveau quand on regarde d'un point de vue fin. Il y a d'autres facteurs qui rendent en compte. Parce que c'est pas n'importe qui part n'importe où. Partir, encore une fois, ce n'est pas naturel. Ça nécessite des compétences, ça nécessite des circonstances, ça nécessite, je dirais, un contexte migratoire particulier. Déjà, on ne part pas n'importe où. Pour eux, on peut distinguer trois lieux principaux de migration. Donc j'avais dit Sorgoun, la petite ville à côté. J'en ai distingué ensuite Ankara, c'est la capitale, qui est à 5 heures de route maintenant, mais qui à l'époque, quand c'était à pied, c'était 3 semaines à pied, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était quand même assez loin. Et puis l'Europe, évidemment, l'Europe qui commence dans les années 60, 65, début de 70 à s'ouvrir, enfin 60, surtout les années 60. L'Europe avec l'Allemagne et puis aussi la France et Narbonne. Voilà. ces trois lieux, bon évidemment, on peut pas les mettre toujours sur le même plan. N'ont pas la même proximité. Hein. Partir à Sorgoun, c'est pas partir à Ankara et c'est pas partir en Europe. Évidemment, ça demande des ressources aussi différentes. Alors, ces ressources pour migrer, quelles sont-elles? D'abord, il y a le capital financier. Oui, migrer, ça demande de l'argent. Surtout à cette époque. Donc, ça demande de l'argent. Ensuite, par ailleurs, on peut aussi avoir des ressources culturelles. C'est-à-dire que, par exemple, on connaît un métier et on se fait embaucher et on part en Europe. Troisième point, on peut aussi utiliser des réseaux. Les réseaux familiaux, les réseaux d'amis. Alors, ces ressources, ces différents types de ressources, ne sont évidemment pas égales selon les individus. Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'amis et d'autres qui ont plus d'amis que de culture. Bon, voilà, je vous fais. C'est assez facile. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se demander si finalement, pour migrer dans un lieu, il faut plutôt tel type de ressources. Enfin, si on est doté de tel type de ressources, est-ce qu'on va dans tel lieu ou dans tel autre? Bon, par exemple, Sorgoun. Ça nécessite simplement de l'argent. Il suffit d'avoir un peu d'argent, d'acheter de la terre ou un immeuble, enfin un appartement à Sorgoun, et voilà, ça nécessite pas beaucoup de réseau. Ankara, ah, ça nécessite, oui, peut-être un peu d'argent, du capital financier, mais ça nécessite aussi du capital réticulaire, ça nécessite aussi des réseaux, parce qu'il faut pouvoir, une fois arrivé à Ankara, trouver quelqu'un qui vous indique le bon métier à faire, enfin qui vous recommande et qui vous dit, bon ben voilà, tu peux travailler là, tu peux trouver un travail de maçon ici, etc., etc. Et puis l'Europe, eh ben l'Europe au départ. Ça nécessite surtout un capital culturel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un examen donc de recrutement pour partir en Europe. C'est pas n'importe qui pouvait partir en Europe. Et donc il fallait faire preuve un petit peu d'un savoir-faire, par exemple. Être maçon, avoir des connaissances en maçonnerie, même peut-être pas très 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 poussées, mais avoir quelques connaissances en maçonnerie, ça pouvait aider. Quand on est paysan, on n'a pas forcément ces connaissances en maçonnerie. Et celui qui, par un biais ou par un autre, a réussi à acquérir ses connaissances avait une possibilité. Si bien que, en fait, il y avait des cours de maçonnerie donnés par certains au village pour pouvoir partir ensuite en Europe. Donc c'est un petit peu cet accès aux ressources, ces ressources qui font que ben un tel est parti à tel endroit et un tel est parti à tel endroit. Ce qui est important en Europe, c'est que cette je dirais la ressource culturelle va ensuite disparaître. Ce qui va compter ensuite, c'est le réseau, c'est avoir de bons réseaux, avoir des réseaux familiaux pour pouvoir partir, se faire aider et de là monter son affaire et essayer de grimper comme ça. Alors, ça, c'était la première partie sur l'émigration. Bon, on pourra toujours dire qu'il y a des choses plus. J'ai essayé de le montrer à partir de cas sensibles, ça, ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai brossé en 5 minutes. J'ai essayé de le montrer justement à travers l'histoire entre autres de la famille sur laquelle qui a bien voulu m'accueillir. J'ai essayé de montrer comment, notamment à travers Bektache, comment on pouvait migrer, comment on migrait et comment c'était pas évident comment c'était pas évident. Je fais une parenthèse. Encore une fois, en tant que là, c'est pas tellement en tant que chercheur, c'est en tant que oui, simple pas citoyen, mais en tant qu'homme, je trouve encore ces parcours absolument. Enfin, moi, ça me remplit d'admiration, quoi, parce que quand on voit d'où ils partent et où ils vont. C'est quand même, ils traversent des mondes absolument incroyables, quoi. Il y a des différences de monde hallucinantes. Et ils arrivent à s'adapter et à innover et à créer leur entreprise, etc. Enfin, encore une fois, je trouve ça, moi, je suis rempli d'admiration.
Bistrot des ethnologues. Le 3 février 2009, Benoît Flich était invité au Baloir par l'ARCE sur le thème Odyssée turque, les migrations d'un village anatolien.
Une fois qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors je l'ai dit, je me suis concentré sur deux lieux, Ankara et Narbonne. Narbonne va me servir en fait de contrepoint à ma démonstration. C'est pas l'étude, mon bouquin est plutôt sur Ankara que sur Narbonne. Narbonne, donc je vais parler ici de Narbonne parce que ce qui est intéressant dans Narbonne, c'est que va se créer, donc dans les années 80, on va dire, un milieu d'entrepreneurs lié essentiellement à la maçonnerie. Donc, ce milieu d'entrepreneurs va se former au départ autour de cette personne qui est Bektash, qui part grâce à l'IBB, BKK, qui part donc sur un contrat. Ils sont 12, ils travaillent dans la maçonnerie, et puis l'entreprise qui les emploie au bout d'un an ferme. Et ces 11 collègues décident de rejoindre des lieux d'immigration turque comme Strasbourg ou l'Allemagne. Mais Bektash décide de rester. Et c'est là où il a quelque chose d'absolument incroyable. Il décide de rester et il décide d'apprendre correctement le français. Donc il se retrouve totalement isolé et il va travailler dans une usine. Il va apprendre le français par lui-même. Et d'ailleurs, c'est un excellent francophone, quoi. Et donc il va se mettre comme ça à progresser dans la langue française, et il va aller plus loin. Il va créer sa propre entreprise de maçonnerie. Donc ça, c'est quand même une première dans la région. Et à partir de là, il va avoir des effets réseau. Il va faire venir des gens autour de lui qui, à leur tour, vont créer des entreprises de maçonnerie. Enfin bon, ça va évidemment. Ensuite, les flux migratoires vont se mettre en place, et il y aura un milieu d'entrepreneurs turcs qui va se mettre en place. Alors, ce milieu d'entrepreneurs turcs, il faut bien reconnaître que c'est un milieu extrêmement concurrentiel, évidemment. C'est un milieu très très concurrentiel. Et c'est un milieu qui va, à un moment donné, fin des années 80, se scinder en deux. Pas au niveau du travail, hein. Je crois que c'est pas tellement au niveau du travail. C'est-à-dire que les gens continuent à travailler ensemble ou continuent à être en concurrence les uns contre les autres. Mais il va avoir une fracture entre Alevi et Sunnite. Bon, je vais passer un peu là-dessus, mais il va avoir une fracture, et les Alévis vont reconstituer un groupe autour de l'alévisme. Ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est qu'il y a un groupe qui va se reconstituer autour de la religion. Donc c'est pas, il n'y a pas une reconstruction, encore une fois, d'un village, hein, c'est pas ça. C'est, il va y avoir la reconstruction d'un groupe autour de la religion. Donc voilà, donc et c'est ça qui m'intéressait ici, de voir comment fonctionnait ce groupe, comment par certains côtés il se fermait, par d'autres il était très ouvert, comment il gérait aussi les conflits qui sont assez parfois assez violents et assez durs à l'intérieur. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a un groupe. À Ankara, je dirais que c'est l'inverse. C'est-à-dire que donc je pense que il n'y a pas eu recréation d'un village. C'est-à-dire que les gens ont d'abord migré dans le même quartier. Chose significative, une des rues porte le nom du village. Une rue parallèle porte le nom du village d'à côté. Donc bon, on sent bien que géographiquement il y a quelque chose de stable. Mais je pense pas qu'il y ait une recréation d'un village. Pourquoi ? Alors, d'abord, on va tordre le cou définitivement à cette idée que ces anciens villageois ne sont pas des urbains. On va tordre le cou, comment ? En regardant quels sont leurs rapports à la ville. Donc j'ai fait des entretiens pour savoir, bon, comment vous pratiquez la ville ? Alors, je n'ai pas posé des questions comme ça, mais j'ai dit, mais quand vous... entre autres, ça, j'ai de très beaux entretiens. Entre autres, avec le fils de Bektash, j'ai eu des choses très très intéressantes. Quand tu étais petit, où es-tu allé ? Dans quel quartier ? Est-ce que tu circulais ? Est-ce que tu descendais du quartier pour aller dans les grands centres de la ville, etc. Donc, j'ai essayé de voir comment il fréquentait la ville, comment il circulait dedans, comment il se l'appropriait. Ils se l'approprient déjà cognitivement, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près tous la même géographie d'Ankara. Ils la connaissent bien. Ils la connaissent très très bien. Les hommes comme les femmes. La femme de Bektash, par exemple, un jour nous a conduit, nous a fait traverser la ville, alors qu'elle sait à peine lire. Elle nous a fait traverser la ville sans se tromper. Elle connaît très bien la ville. Je crois par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir, je trouve qu'elle connaît bien. D'autre part, il se l'approprie matériellement. Il se l'approprie matériellement déjà en créant ces maisons qu'on a appelées des gecekondu et que les élites turques disent que c'est des maisons de village. C'est tout sauf des maisons de village. C'est pas des maisons de village. C'est des maisons urbaines. La maison traditionnelle villageoise, elle est en terre. Elle est dans des matériaux qui sont qui appartiennent. C'est pas de la pierre, c'est pas de la brique, c'est pas. Ça appartient à tout le monde. Donc j'ai tout un développement là-dessus pour montrer que le gecekondu est une construction urbaine qui ensuite s'est d'ailleurs déplacée vers le village. Mais c'est une construction urbaine. Et ensuite, non seulement ils ont fait des gecekondu, mais ensuite ils ont rasé ces gecekondu et ils ont fait des immeubles. Donc ils ont construit la ville. Et il faut voir qu'en fait, 60% d'Ankara s'est construit comme ça, même plus. 60%, enfin, même 70% d'Ankara se construit comme ça. C'est construit comme ça. Donc, ils ont construit la ville. En ce sens, moi je vois pas, je les vois pas là, qu'on peut pas dire, ce sont des ruraux. Bon. Ensuite, ils ont développé ces compétences urbaines, j'en ai parlé. Ils ont cette géographie commune. Bon. Par ailleurs, ils ont investi l'économie de la ville. Et ça, ils l'ont investi de façon différente. Et c'est là où on voit qu'il y a une, on peut plus parler de village parce que ils ont investi d'une façon très très différente. Il y a une ventilation sociale très très différente. Et ça, évidemment, avec des parcours très intéressants, des gens qui passent par l'Europe, qui engrangent de l'argent, qui vont ouvrir ensuite un commerce à Ankara, qui vont le faire fructifier, puis ensuite qui laissent des enfants à Ankara et en Allemagne et qui font les allers-retours, etc. Donc des choses qui sont très 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 importantes. Et puis le point aussi important, c'est qu'il y a une scolarisation. Il y a un investissement massif dans l'université et dans la scolarisation. Et ça, c'est un. J'ai fait les statistiques. Les jeunes qui arrivent très jeunes à Ankara ou les jeunes qui sont nés, donc la deuxième génération qui vivent à Ankara, investissent dans l'école. Ça, c'est très très fort. Donc, cette ventilation sociale est très importante. Ensuite, le village n'est plus un cadre d'action, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le village disparaît, c'est-à-dire que on retrouve plus la même sociabilité qu'au village. Je crois que je vais aller un peu vite, mais ce serait un peu long, mais on s'aperçoit que en termes d'alliance, en termes de mobilisation politique, en termes de sociabilité, en termes même de commérage, le village tend à disparaître. Hein, ça fait plus sens, c'est plus ça qui est vraiment... d'actualité jusqu'à ce que on le verra l'association du village renaisse. Mais on va y venir. Ce sera le dernier point. Dernier chapitre, enfin avant dernier chapitre. Donc ce problème qui est la transformation des habitus, où j'ai essayé de montrer ici comment une fois arrivé dans l'urbain, eh bien les habitudes liées à l'alliance, les cadres de perception liés à l'alliance changeaient un peu. Alors l'alliance, le mariage, ça reste un peu stable, c'est-à-dire que c'est un des domaines où il y a une certaine stabilité. Et encore, je suis forcé de constater que que ça évolue très très vite. Je pense qu'on le verra peut-être dans les questions, mais les choses sont finalement évoluent très très vite. Et les marchés matrimoniaux sont en pleine transformation. Au niveau, je dirais, de la vie quotidienne, des maisons, de la façon de l'organiser les maisons, c'est pas du tout des maisons villageoises. On a une privatisation des pratiques corporelles. Quelque chose aussi bête, mais la douche, c'est quelque chose qui apparaît. Il y a le fait qu'il y ait un salon qui soit au centre de la maison, parce que au village, quand on recevait un étranger, on le recevait dans la Misafir Odasse. Donc la maison des la chambre des invités. Donc, il était un petit peu en dehors de la maison. Ici, le salon, non, c'est au centre de la maison. Donc, c'est une gestion de l'étranger, de l'impromptu, parce que, bon, en Turquie, on est tout le temps en train de se faire des visites, hein, donc c'est l'impromptu quotidien, quoi. Nécessite une organisation spatiale de la maison en particulière. Et entre autres, le salon, là-dessus, est une pièce vraiment intéressante à étudier. Puis il y a aussi évidemment l'apparition de la chambre à coucher. Bon, je pense que ça évoque quelque chose pour le bistrot des ethnologues, la chambre à coucher. Voilà, donc il y a cette transformation d'habitus très 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 très, très importante qui se fait, et il y a aussi l'adhésion à une esthétique particulière, une esthétique qui au départ refuse le village. On va pas faire comme au village. On se différencie du village et on essaie de signifier sa modernité par l'acquisition de certains objets, comme le canapé. C'est pas le même qu'au village, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans ces salons qui sont tout gagnés à la modernité, apparaissent ça et là des petits signes qui rappellent le village. Et c'est ces petits signes qui m'ont interrogé et qui m'ont fait parler d'un phénomène de patrimonialisation populaire par le bas, mais de patrimonialisation quand même. Et j'en arrive à mon dernier point, c'est que apparaissent ça et là des objets mnésiques, des objets mémoire, des objets qu'on pend. On pend le vieux kilim, on le met sur le mur. Des fois on suspend des objets liés au travail de la terre, etc. Bon, ce qu'on connaît très bien ici. On voit un processus, un changement esthétique qui apparaît, et c'est très intéressant parce que dans le discours de mes informateurs, ils disaient oui, au départ on pensait que c'était pour les touristes, ça. Mais maintenant on voit bien que c'est aussi pour nous. Et on l'affiche, quoi, on le met. C'est très intéressant. C'est dans la maison de Bektash au village. Donc Bektash vit toute l'année dans ce village. Il a construit sa maison et il a laissé les poutres apparentes et la pierre comme ça. Il a travaillé 20 ans, 30 ans à Narbonne, etc. Donc il a cette esthétique, en fait, que l'esthétique néo-rurale française. Et il a transposé dans son village turc. Et puis c'est un des promoteurs justement de cette patrimonialisation. C'est lui qui a commencé à mettre des kilims, etc., etc. Et au départ, les villageois autour, quand ils venaient chez lui, ils trouvaient ça très moche. Ils disaient mais si tu veux, attends, mais nous on te met là un faux plafond pour cacher les poutres, et puis là on peut te mettre un plâtre pour cacher la pierre apparente. Et Bektash disait non, je veux pas, c'est joli. Et là j'y suis retourné en 2007. C'est très intéressant parce que est arrivé deux trois familles. Et elles sont donc de villages aux alentours. Elles disent, oh là là, qu'est-ce que c'est joli chez toi, on devrait faire pareil. Donc vous voyez, la transformation esthétique, des cadres de perception esthétique sont en train de complètement ont changé, quoi. Et ils ont changé entre ces dernières années. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé à changer, cette perception esthétique, ça a commencé à changer en Europe. On l'a vu apparaître à Ankara, et maintenant elle apparaît aussi dans les villages, dans les villages ruraux. Donc cette patrimonialisation, elle est même plus large. Elle concerne même le village lui-même, parce que c'est ça qu'il s'agit en fait, c'est de patrimonialiser le village. Et Bektash est un des promoteurs de cette patrimonialisation, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a eu d'autres qui l'ont aidé. Et pour ça, il a créé cette association de villages à Ankara, ce qui n'a pas été sans mal. Il a fallu mobiliser parce que les gens n'avaient pas envie les anciens villageois n'avaient pas du tout envie de faire une association. Il a fallu les convaincre. Ça a été assez dur. Et puis une fois que cette association a été créée, Bektash est reparti toujours avec son idée, il a une sacrée volonté, toujours avec son idée de faire revivre son village, et parti faire construire sa maison et relancer une dynamique pour faire émerger ce village. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui a poussé Bektash à faire ce parcours. Bon, il a eu une histoire personnelle très dure, il a eu des gros problèmes de santé, je pense que ça l'a vraiment... bon, il a fait perdre la vie, et ça l'a remis en question, je pense, et je pense que ça a été aussi lié à une renaissance chez lui. On retrouve des choses très similaires dans Les Passions ordinaires de Bromberger. Il y a quelque chose un petit peu similaire, hein. Là-dessus, je trouve qu'il y a des parallèles, quoi. Et d'ailleurs, les gens qui vont le suivre ont toujours un peu ce profil d'une vie. Ils ont des ruptures biographiques assez importantes, quoi. Des choses, ils ont des choses dures, quoi. Donc il y a cette espèce, pas de revanche sur la vie, mais oui, cette expérience de vie difficile, quoi. Bon, il y a aussi, évidemment, chez Bektash, il y a peut-être aussi un peu d'expérience mystique, quoi. Il y a quelque chose, il sent investi d'une mission presque mystique pour relancer ce village. Et puis, il y a l'expérience esthétique, encore une fois. J'insiste parce que quand quelqu'un vous dit « J'ai passé 20 ans en France », tous les jours, j'ai rêvé de mon village. Au départ, vous pouvez vous dire, non, il a rêvé tous les jours de son village. C'est-à-dire que le village lui manquait. Et j'ai des entretiens là-dessus où il m'explique, mais le froid, enfin les hivers froids, les étés chauds, enfin bon, il ne prononce pas, enfin il articule pas comme je l'articule moi maintenant. Ce que je dirais, c'est l'esthétique environnementale, mais tout ça lui manquait et il était inscrit dans cette nostalgie. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a poussé à faire ce pari fou. D'ailleurs, au départ, ses amis le considéraient comme un fou. Voilà. Alors, une fois qu'il a réussi à impulser cette dynamique, cette mobilisation collective autour de ce village, ce qui est intéressant, parce que ici on voit comment les patrimonialisations sont liées à des mobilisations sociales. Et ça, c'est rarement dit. Ça, c'est rarement dit que les patrimonialisations, ce sont d'abord des mobilisations. Une fois que cette mobilisation est enclenchée, il ne faut pas croire que tout le monde revient au village. En fait, il y a des filtres, là encore. Le retour au village, ça ne se fait pas comme ça. Et ça ne se fait pas comme ça parce que ça nécessite, encore une fois, de l'argent. Et oui, c'est ceux qui ont pu un petit peu mettre de côté qui vont... puisse réussir à se réinstaller dans le village. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le village prend aussi des fonctions très très différentes. C'est-à-dire qu'on a une image d'un village qui est liée à la fonction simplement agraire. Mais un village en Turquie, je généralise sciemment, parce que je pense qu'il y a des transformations sociales dans les villages turcs absolument sidérantes. C'est pas du tout des endroits paumés, comme on pourrait croire. Ce sont des villages qui sont des villages de retraités, des villages de vacances, des villages de production, évidemment, où ils sont liés à... il y a beaucoup... On produit des produits qu'ensuite on donne à la famille qui est restée en ville. Mais c'est aussi des villages qui sont connectés, et c'est ça qui est très intéressant, qui sont connectés à des territoires complètement hétérogènes, qui sont connectés à l'Europe, qui sont connectés aux grandes mégapoles turques. C'est pas du tout des villages enclavés, c'est pas du tout ça. Et il y a des dynamiques sociales qui sont absolument incroyables. Je vais vous donner un petit exemple. Quand je suis arrivé en 2000, c'est un petit exemple que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le café. Et quand je suis arrivé en Turquie, je me suis dit bon, c'est le pays du café, quoi. Bah non, pas en 2000, hein. Pas du tout. C'était le Nescafé. Tout le monde était au Nescafé, quoi. Et donc à Istanbul, on avait droit au Nescafé. Et quand on demandait un café turc, c'était à l'époque, c'était on connaissait presque pas, quoi. C'était voilà. Alors maintenant, ça a complètement changé. Vous allez à Istanbul, vous avez tous les expressos que vous voulez, vous avez tout ce que vous voulez. Mais il y a 9 ans, c'était pas le cas. Donc je suis arrivé dans à Kayalar, j'allais dire le nom du village, on est allé rendre visite à un village juste à côté. Et là, on me demande, tu veux du café? Je dis, bah oui, je pensais avoir du Nescafé. Et là arrive un plateau de café filtre. Et c'était le premier café, vrai café, que je buvais depuis 3 mois. Et je dis, mais comment vous trouvez du café filtre au beau milieu de l'Anatolie? Et la femme me répond, bah, c'est très simple, mon fils revient d'Allemagne, est revenu d'Allemagne il y a 1 mois, il m'a apporté ma réserve de café, quoi. Et donc c'était en 2000, et c'était une petite anecdote pour montrer, je me suis dit, mais l'image que j'ai du village, à mon avis, je suis en train de complètement de passer à côté, quoi. Je crois que je suis en. Voilà, et c'est ça, c'est cette petite histoire qui m'a dit, mais. Il y a des choses qui se passent en termes de territoire, etc., qui sont intéressantes. Non. Voilà. Alors, je continue sur ce retour au village. Le retour au village, il n'est pas sans conséquence non plus, évidemment. Bektash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstitué un réseau villageois à travers cette association, etc. Mais il a aussi remis un enjeu central au niveau du réseau, à savoir le village. Et le village est devenu un lieu de confrontation, comme il l'était souvent avant, très très fort. En 2002, je crois que le sous-préfet était fou de rage parce qu'il disait, dans ce village, vous êtes pas beaucoup à vivre en permanence, mais vous avez 20 procès quand même. C'est quand même énorme, quoi. Et donc, bon, il y a bien sûr un esprit sans doute procédurier, mais c'est pas simplement ça. Ce que ça prouve, c'est que c'est redevenu un enjeu commun. Et que par là, Bektash a réussi son pari, c'est-à-dire qu'il a recréé un champ social, certes conflictuel, mais un champ social, il a recréé un réseau, et plus que ça, il a recréé en fait un village quelque part. Et c'est, je pense que quelque part, malgré lui, enfin, il a réussi son pari. Voilà. Alors, j'aimerais finir cet ouvrage fini sur le fait que ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que nous sommes en présence, et c'est ça le point important, c'est que nous sommes en présence de territoires en archipel. C'est des territoires hétérogènes, très variés, très différents, un village, une banlieue de Hambourg, Narbonne, qui sont liés les uns aux autres. Et ça circule entre ces territoires, et ces territoires s'influencent évidemment, et de là vient des changements culturels majeurs. Bon, je pourrais prendre ici par exemple le champ matrimonial. Il y a une transformation du champ matrimonial, on se marie plus de la même façon parce que cette mise en territoire change de donne et change et crée de nouvelles dynamiques. Et par ailleurs, le deuxième point, je vous ai dit mon admiration pour ces paysans qui partent. Alors, le niveau technique, hein, à l'époque où ils partent de leur village, ils sont à la faucille, hein, et ils sont pas à la faucille avec un manche, enfin avec une lame en fer, non. C'est, alors je veux pas misérabiliser non plus, mais c'est vraiment un outillage très très rudimentaire, quoi. C'est bon, c'est quand même des conditions de vie très très dures. C'est cette génération, surtout, qui part, qui ont 20 ans dans les années 70, qui partent, qui vont connaître des socialisations complètement différentes, des histoires absolument incroyables, qui vont partir en Europe, qui vont revenir, qui vont connaître un coup d'État 1980, certains vont connaître la prison, la torture, qui vont connaître ensuite des années aux Halles, etc. Ils vont connaître des socialisations complètement différentes. Et c'est ça aussi un des points du livre, c'est de dire que ça, c'est un des points théoriques, c'est que les habitus ne sont pas, je dirais, ne sont pas homogènes, ils sont clivés, il y en a plusieurs, il y a des socialisations secondaires, et chaque socialisation fait qu'on acquiert de nouvelles habitudes, de nouveaux habitus. Et pour faire tenir tout ça ensemble, bah, ça nécessite aussi un art de vivre. Et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans ce bouquin. Je vous remercie.